Attention, attention, RH moins 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1. La radio sauvage.
0.
Quelle heure est-il ?
Et 6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures.
Avant minuit.
Yes, man.
C'est 7 heures minuit, alors je suis pas bon.
6 heures avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab,
la radio sauvage.
6 heures avant minuit, c'est la quotidienne d'info de Syllab, diffusée à 18h du lundi au jeudi sur le 88.4 FM et DAB+. En ce moment, nous sommes en vacances, alors on vous propose de réécouter nos productions de la saison passée. Compile de la chronique dans la sauce de Cess.
6 heures avant minuit, 6 heures avant minuit.
La saison passée, Cess vous a parlé de manger local et saisonnier, de stratégies culinaires en période de forte chaleur et des violences dans les cuisines françaises. Dans la sauce, la chronique est de retour et cette fois-ci, il sera question de flemme et d'accessibilité.
Bienvenue dans la sauce, la chronique culinaire qui s'intéresse à une bouffe ancrée dans la société. J'ignore si c'est la dépression hivernale qui tire parti de la crise climatique, à moins que ce soit le changement d'heure qui me déboussole complètement. Mais à la maison, c'est pas la patate. Alors je scrolle sur les réseaux et je vois défiler par paquets des recettes dites de la flemme. La promesse, se préparer quelque chose de bon et sain, mais sans effort. La réalité, ce qui m'est présenté comme facile, m'a tout à fait l'air insurmontable. Je veux bien qu'une recette de pâtes, ça puisse rentrer dans l'imagerie de la flemme. Mais si pour les accompagner, tu me proposes de cuire des légumes dans un panier vapeur et de sortir le blender pour mixer la sauce de mes rêves, moi je pense juste à la vaisselle qui va m'attendre derrière. Soyons honnêtes, si on doit sortir plus d'une casserole, est-ce qu'on est encore vraiment dans une recette de la flemme ? Quand j'étais en études et que je découvrais les joies et la charge mentale de la vie indépendante, j'avais pour tout équipement un frigo, une plaque, une casserole et un lavabo. Oui oui, même pas un évier les amis. Et c'est comme ça que j'ai développé une pure recette de la flemme que je m'en vais vous livrer. J'ai nommé les brocos soba. On commence donc avec des soba, des nouilles japonaises au sarrasin, qu'on envoie en cuisson dans une eau frémissante. Ça nous laisse le temps de tailler le tronc d'un brocoli qu'on va éplucher sobrement. Et on envoie tout ça dans la casserole avant de passer à nos têtes fleuries. Ainsi, soba et brocoli cuiront dans la même eau en parfaite osmose. Je vous laisse ajuster le tempo et la découpe de vos légumes pour trouver la texture plutôt fondante ou croquante qui vous conviendra. Le temps que soba et brocoli atteignent la parfaite cuisson, prenez bol ou assiette, peu importe, préparez un lit de fromage blanc que vous viendrez ensuite assaisonner au choix de vinaigre balsamique et ou de sauce soja salée. Un filet d'huile d'olive peut également être le bienvenu parce que les oméga 3, ça fait toujours du bien. On essore le fruit de notre cuisson, on serre, on touille et on déguste. Et pendant qu'on savoure tout ça, questionnons-nous deux secondes sur l'intitulé « Recette de la flemme ». Flemme, sentiment de paresse, désir de ne rien faire. Avoir la flemme, synonyme fainéantise. Alors, peut-être que ces créatrices de contenu qui répondent aux trends et aux injonctions de production des plateformes ont une autre appréhension du concept de recette de la flemme. Mais moi, dans mon monde, avoir besoin de recettes, entre guillemets, de la flemme, c'est développer des stratégies pour s'en sortir, pour se nourrir convenablement en optimisant son temps. Parce que, en 2019, l'Agence nationale de santé publique publiait un bulletin épidémiologique hebdomadaire sur le temps de sommeil en France. Je cite les conclusions. Si le temps de sommeil total sur 24 heures est proche de 7 heures en France, une proportion cependant élevée de Français et Françaises dorment moins de 6 heures, sont en dette ou en restriction de sommeil. En 2022, un sondage IFOP est publié. Près de la moitié des Français et Françaises se sentent fatigués, démoralisés, stressés et irrités. C'est-à-dire que même si vous n'êtes pas en train de vous essouffler à la préfecture pour renouveler vos papiers, de vous débattre avec la MDPH pour prouver que vous êtes assez handicapé, ou de serrer les clés dans votre poche en rentrant le soir chez vous, ou mille autres facteurs dont je ne peux pas faire la liste exhaustive ici, bah ça veut dire que même si vous n'avez pas d'autre combat que celui-là, on est fatigué en fait. Alors bon, on y a droit à ces petites recettes pour nous remonter le moral rapido pesto.
Je voudrais devenir député ou ministre. Il paraît qu'à la chambre, on baille à qui mieux mieux. Les débats sont rasants, les discours sont sinistres. Et c'est dans ces métiers que l'on vit le plus vieux.
Merci Cess pour les conseils culinaires et pour la playlist. À bientôt, j'espère, pour un nouvel épisode de Dans la sauce.
6 heures avant minuit.
C'est l'heure d'une nouvelle chronique de Dans la sauce, la chronique culinaire qui s'intéresse à une bouffe ancrée dans la société. Cess sort de sa cuisine ce soir et va faire un tour à l'épicerie.
Bah, moi je suis Bérangère de Clercq, je tiens une épicerie qui s'appelle Ma Joyeuse Épicière. C'est une épicerie bio et vrac dans laquelle on essaye de proposer des produits plus responsables, locaux, de saison et qui soient bons pour la planète, mais aussi d'avoir un endroit qui crée du lien, d'arriver à retrouver en fait cette ambiance d'épicerie de proximité, avoir toute cette dimension sociale du commerce aussi, que ce soit pas juste venir là pour consommer mais aussi pour être dans l'échange.
On va faire faillite par ma faute. Je sais qu'on est bienvenue ici, mais quand même. Là, je prends un peu trop de liberté.
Nous, l'objectif en fait avec cette épicerie, c'est faire du circuit court et de mettre en avant nos producteurs, de faire parler de leur métier, pouvoir les soutenir, de pouvoir les permettre de vivre de ce métier qui est essentiel parce qu'on a besoin de nourriture de toute façon pour vivre. Et après, bah, pour le vrac, nous, l'objectif, c'est effectivement de limiter les emballages. Nous, on a les gros sacs de vrac qu'on reçoit, mais par 10 ou des fois même 25 kilos. On a beaucoup de producteurs qui font de la consigne, notamment tous nos producteurs de produits laitiers. Donc, on a du lait en bouteille consignée, des yaourts, enfin voilà, donc beaucoup de choses sur lesquelles les clients payent une consigne, reviennent et on leur rembourse, et ça marche très bien à l'épicerie parce qu'on fait une grosse sensibilisation par rapport à ça. Et puis nous, on met aussi à disposition des bocaux gratuits en libre service qui sont des dons. Nous on les lave, on les pèse, et du coup les gens, s'ils ont pas envie de prendre les sacs en craft qu'on met à disposition, et ben ils peuvent prendre les bocaux et donc faire vraiment du zéro déchet, revenir avec et tout ça quoi. Alors bah nous on fait des paniers toutes les semaines pour les clients et en fait on essaie toujours de faire découvrir des nouveaux produits. Donc là notamment en septembre on a un petit fruit qui s'appelle le kiwi, c'est un mini kiwi. Et du coup voilà, tous les ans on aime bien proposer des choses qui changent pour montrer aux gens qu'il y a autre chose que juste les courgettes, les tomates, les poivrons et qu'il y a des choses un peu plus originales qui puissent exister. Et les paniers c'est un bon moyen parce qu'on essaie toujours de mettre un peu quelque chose de moins connu dans le panier, de donner une idée de recette, d'expliquer ce que c'est, enfin voilà. Et le lait, je sais pas si tu l'avais fait.
Non,
et la bouteille de lait. Ah, moi, tout de suite, je vais avoir un petit sac, ouais.
Est-ce que je pourrais reprendre le coup, s'il vous plaît?
Allez, c'est moi le coup. Aujourd'hui, le beurre ne se vend pas du tout assez cher par rapport au prix que devrait être ce genre de produit. Toutes les bouteilles qu'on achète en grande surface, c'est du lait qui est intégralement écrémé, qui ensuite, dans lequel ils rajoutent de la crème pour faire du demi-écrémé ou de l'entier. Et du coup, bah, ça leur fait une quantité de crème qui transforme en beurre. Et donc aujourd'hui, le beurre, ça vaut rien parce que c'est un déchet finalement. Donc le prix qu'on trouve en supermarché, c'est impossible de le trouver en direct avec des producteurs. Et eux, en général, ils le vendent en direct pour faire un produit d'appel. En fait, les gens viennent pour acheter leur beurre, mais en général, c'est un produit sur lequel ils font très peu de marge parce qu'il faudrait le vendre peut-être 3 fois plus cher que le prix qui est vendu actuellement. Surtout que ça demande beaucoup de temps à faire et puis ça demande de sacrifier du lait en fait. Parce qu'aujourd'hui, très peu de monde consomme du lait écrémé à 100% et pour faire du beurre, il faut du lait écrémé. Donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui on n'a pas de beurre et donc on essaie d'expliquer aux gens pourquoi. Après, bah voilà, faut pas hésiter à aller voir les producteurs en direct. Eux, ils pourraient peut-être en proposer, mais nous aujourd'hui, c'est vrai qu'on a du mal à en trouver pour l'épicerie.
Non, mais c'est bien.
Et le petit pain aux graines, et voilà.
Et voilà, c'est bon.
C'est tout bon ?
Oui, c'est tout bon. Attendez, je vous mets ça.
Oui, bah vous pouvez le reposer là, c'est super. Si je devais choisir un mot pour décrire l'épicerie, ce serait vivant.
Et bah c'est parfait. Passez un super week-end. Merci. Au revoir.
Et si vous souhaitez découvrir cette épicerie vivante, rendez-vous au 40 rue d'Entrain. Si vous avez envie d'envoyer Cess sur d'autres terrains alimentaires, envoyez vos suggestions au 02 30 96 25 35.
6 heures avant minuit.
Dans sa chronique Dans la sauce, Cess poursuit sa visite des petits commerces rennais qui permettent de bien manger et pas seulement avec nos papilles. Cette fois-ci, rencontre avec Clémence alias Clé-Clé du café cantine Enfant Terrible.
On voulait un lieu où on pouvait être le plus inclusif possible pour certaines communautés. On voulait aussi un lieu qui propose du vegan et du végétarien pour que tout le monde puisse manger. On a ouvert un peu le sans gluten ces derniers temps justement pour continuer là-dedans. On a du coup un petit café, on va dire assez militant.
Et qu'est-ce que tu aimes dans ta carte, Clé?
Ça fait rire mes clients, il y a beaucoup de choses que je cuisine que je n'aime pas du tout. Du coup c'est Marine qui goûte. Pour être sûre, mais par exemple, je déteste la patate douce. Mais j'en mets beaucoup parce que ma clientèle adore ça, donc bon, voilà. Moi, quand je mange ici, ce que je préfère manger, c'est quand même mon curry, parce que moi, j'aime la cuisine très, très épicée, même si je le fais assez doux ici pour ma clientèle. J'aime beaucoup les cookies aussi, et le flan vegan, parce qu'en fait, moi, je peux manger un peu de fromage, autres choses comme ça, mais ça me fait tout de suite très mal au ventre. Et le flan, j'adore ça, du coup, en vegan, il me fait pas mal au ventre.
Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui pensent que la cuisine vegan, c'est pas accessible ?
C'est vrai qu'on voit beaucoup le vegan avec beaucoup de graines, beaucoup de préparations avant, de choses à laisser gonfler, infuser ou quoi. En fait, pas tant que ça. Il y a vraiment des recettes très très simples et très accessibles partout sur Internet déjà. Et en plus, aller au plus simple, c'est vraiment ne pas se foirer entre guillemets. Effectivement, pour tout ce qui est gâteau, il y a un peu une technique pour transformer les œufs, en gros, c'est le plus chiant. Mais en fait, il y a plein de techniques avec des graines de chia, du jus de citron, tout comme ça, pour faire bien gonfler le gâteau. Et la cuisine vegan, c'est de la patience, mais pas si compliqué que ça au final, quoi. Il faut sauter le pas, il faut savoir quel lait végétal on veut mettre. Est-ce qu'on va souvent vers le lait de soja, mais il y a un petit côté acide parfois dans le lait de soja. Donc voilà, faut vraiment doser. Mais il y a plein de choses en vegan qu'on peut faire qui sont très très bonnes, quoi.
Et est-ce que cuisiner du vegan, ça a été compliqué à défendre lors du montage du projet ?
Il y a eu beaucoup de gens qui m'ont dit « En fait, il faut quand même que tu proposes une option avec de la viande. » Moi, j'ai dit « Non, je ne ferai pas ça. » Tout le monde peut manger où il veut. Mais pour moi qui ai été longtemps vegan, aller dans un restaurant, c'est toujours compliqué. Alors que ici, tout le monde peut manger. Les gens qui ne mangent pas de viande, ils peuvent faire un repas sans viande. Et personnes qui sont véganes ou qui ont des intolérances, ou que ce n'est pas un choix vraiment sociétal, le véganisme, ils peuvent manger tranquillement. Le banquier ne nous a pas trop empêté sur le vegan. Par contre, les personnes qui nous ont aidés à faire l'étude de marché, c'était des étudiants et leurs professeurs n'arrêtaient pas de dire aux étudiants, dites-leur quand même de faire de la viande. Et nous, on était là, non, on ne fera pas ça. Finalement, quand on a ouvert, on a trouvé notre clientèle tout de suite. On a été pendant un moment une référence aussi pour plein de gens qui ne sont pas du tout véganes, mais qui venaient ici en disant « Elle cherche un gâteau pour l'anniversaire de telle personne qui est végane et tout. »
Si tu devais choisir un seul mot pour décrire Enfant Terrible, ce serait lequel ?
Moi, je dirais rassurant. Mais c'est vraiment très personnel parce que moi, je suis rassurée d'avoir encore ce lieu au bout de 4 ans. Je suis rassurée quand je viens ici et que j'ai mes repères et que les gens sont toujours assez contents de manger ce que je fais, à titre personnel. Je suis rassurée de voir que certaines personnes le voient encore un peu comme un refuge un peu rassurant où ils viennent. Et moi, je suis rassurée de pouvoir aussi adapter mon monde de travail à mes besoins de neuroatypiques, par exemple, ou des choses comme ça.
Pour soutenir et faire perdurer ce refuge tout en se régalant d'un flan dénué de toute agressivité lactée, vous pouvez aller au 30 rue d'Entrain à deux pas de Sainte-Anne. Merci Cesse.
6 heures avant minuit.
Garde à vous, chère auditrice, pavée dans la sauce avec cette nouvelle chronique de Cesse.
Douce et terrible période que celle de ce début d'année. D'un côté de la balance, il y a la traditionnelle pâtisserie de janvier, luisante de beurre et riche d'amandes. Et de l'autre, il y a toutes les bonnes résolutions, à base de kilos à perdre et de régime à faire. Toujours un bonheur de se poser 1000 questions, non pas sur la cachette de la fève, mais sur le regard des autres au moment de servir une part de galette, tout en entendant vos convives avoir pour rêve absolu de ne pas vous ressembler. N'est-ce pas Frédéric Lormet ?
C'est factuel et fastoche. Les gens cons sont moches, alors que les sveltes sont bons et honnêtes, intègres et gentils, tel Rachida Dati.
Ce soir, je voulais vous parler de la diet culture, cet ensemble de croyances promouvant la minceur comme idéal de vertu et de santé, sans considération pour la réalité scientifique et sociologique. La diet culture, c'est le couperet de l'IMC, qui ignore la diversité naturelle des corps, les facteurs génétiques et socio-environnementaux. Par exemple, l'IMC s'en cogne de l'impact de l'organisation des villes et des politiques de transport en commun sur votre capacité à bien vous alimenter. En 2023, l'association VRAC, vers un réseau d'achat en commun, publiait une enquête sur la dégradation de l'accès à l'alimentation dans les quartiers populaires de 12 grandes villes françaises, dont Rennes. 15% des personnes interrogées ont déclaré ne pas pouvoir accéder à leur lieu d'achat à pied ou en transport en commun, impactant directement les choix d'alimentation de ceux-ci.
C'est pas ça. Docteur Boss, que vous a mis à la diète ? Tant mieux, ça fait des économies.
La diet culture, c'est aussi la culture des régimes, qui se masque désormais derrière le thème beaucoup plus sexy de rééquilibrage alimentaire. C'est aussi les traitements magiques qui exploitent la haine des corps gros pour engraisser une industrie bien cynique. Cette année 2025, la lutte contre l'obésité s'est équipée en armes lourdes avec les analogues de GLP-1, ces solutions injectables censées réguler l'appétit.
Ozempic, Wegovy et autres Mounjaro ont quitté les laboratoires privés et ont envahi les médias et les cabinets médicaux de leurs promesses miraculeuses. Des traitements qui présentent parmi leurs effets secondaires graves, nausées, carences, perte de masse musculaire, pancréatite aiguë, troubles digestifs et décès. Au Royaume-Uni, la Medicine and Healthcare Products Regulatory Agency estime qu'1,5 million de la population utilise ces traitements anti-obésité et a reçu plusieurs milliers de signalements d'effets indésirables, avec plusieurs dizaines de décès potentiellement liés à l'usage de ces traitements, qui par ailleurs n'auront les effets désirés qu'à court terme.
C'est un régime pour maigrir.
Bah oui, mais faut pas tout arrêter d'un coup, sinon c'est un régime pour mourir.
Si la Fédération de lutte contre la grossophobie propose dans sa tribune de décembre dernier de remplacer « Comment lutter contre l'obésité et faire maigrir les personnes grosses » par « Comment améliorer la santé de toutes les personnes, quelle que soit leur corpulence », j'ai à mon tour une proposition à vous faire pour vos résolutions de janvier. Foutez-vous la paix, foutez-nous la paix. Faites faire une petite cure détox à vos algorithmes de toutes plateformes en introduisant une diversité de corps et de vécu, et tonifiez votre empathie pour qu'elle ne soit plus conditionnée par la vue d'un bourrelet. If my body is a vessel, I will give it what it needs. I will not betray my body, no matter what they think of me. There's nothing wrong with my body, fat is not a dirty word. If my body tells me something, I will make sure it is heard. If my body is a vessel, I will give it what it needs. I will not betray my body, no matter what they think of me. Et si vous voulez creuser la question en local, nous vous renvoyons vers Gros Amour, collectif rennais de lutte contre la grossophobie. Merci, Cess.
6h avant minuit.
6h avant minuit.
On passe à la partie chronique. Ce soir, c'est une nouvelle chronique dans la sauce. Et c'est Cess qui vous embarque en immersion pour décortiquer une pratique culinaire tendance.
Cette semaine, on va meal prep. C'est-à-dire qu'on va préparer nos repas de la semaine en avance, de sorte à optimiser le temps passé en cuisine, l'utilisation des électroménagers, tout en cuisinant des produits frais et des plats équilibrés. Bim bam boum, on allie économie, productivité et enjeux santé. Alors vite, enfile ton tablier, aiguise tes couteaux, on est parti. Tchac, 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 tu me tailles l'oignon, on carde les blettes, blanc dans la poêle, on laisse la cuisson se faire, le temps de battre les œufs avec du fromage blanc et de la muscade, et toc, on revient remuer notre poêlée, hop là, on déclasse avec une sauce soja, et zou, pendant que ça réduit, on va vite foncer la pâte feuilletée dans le plan à tarte, et splot, tu me balances tout ça, ça part à 180 degrés, chaleur tournante pour 40 minutes. Et on va quand même pas laisser le four tourner à moitié vide. Chop, chop, la dernière butternut de la saison. Envoie une poignée de gousses d'ail, un peu de carottes, quelques patates, un filet d'huile d'olive et du gratin, et hop, ça part sur une plaque sous ta quiche végétale. Et pendant que ça cuit, on sort la mandoline ou le coutelas et on hache menu le chou rouge ou le chou blanc ou le chou chinois ou même le chou de Bruxelles, va. Qu'importe, tant que tu me haches tout ça bien finement, tchac tchac tchac, et ça part avec du citron et du sirop d'agave, direct dans le tube, zoupla, on le mangera en salade en variant les sauces et les condiments histoire de pas se lasser. Qui des petites olives, qui de la feta émiettée, qui des graines toastées, ça te fera des fibres et des oligo-éléments pour toutes tes entrées de la semaine, ça c'est fabuleux. Et si la pâte feuilletée ou nos légumes rôtis n'ont pas fini de dorer, crois-moi pas que ça soit l'heure de se reposer. Profites-en plutôt pour lancer un overnight oats. Rien de plus simple pour faire ce porridge sans cuisson. Hop, une poignée d'avoine par portion et plouf dans le lait végétal de ton choix et ziou, tu me sucres ça avec un sucrant naturel, comme notre bon vieux sirop d'agave précédemment cité, ou bien une pointe de miel. Et bam, tout ça, ça part dans un contenant hermétique, direction le frigo pour la nuit, et tada, demain matin, tu me dégusteras tout ça avec des petites amandes ou des tranches de pommes, et ce sera so healthy pour débuter ta journée avec ton petit chai latte. Et vu que c'est vite fait bien fait, le four sera toujours en train de tourner. Pas le moment de se relâcher. Quoi faire? Ah tiens, la vaisselle. C'est qu'on en a fait partout avec cette tornade de meal prep. Allez, on s'y met. Et pendant que l'eau mousse et que l'éponge frotte, peut-être que l'adrénaline redescend un peu. Tes mains plongées dans l'eau chaude se décrispent enfin, et tu te demandes « Mais pourquoi tout ça ?» C'est vrai que la vue d'un frigo rempli de Tupperware parfaitement portionné et bien rempli, ça a quelque chose de satisfaisant et de rassurant.
Je ne vais manquer de rien. Je maîtrise la situation. Je suis préparée à toutes les éventualités. Du moins, je crois. Pourquoi une fois dans ma cuisine, je deviens à la fois le manager et la caissière du Lidl ? Qu'est-ce que je vais faire de tout ce temps gagné ? Me reposer ? Ou encore plus optimiser le moindre centimètre carré de ma vie ? Ting ! Ah tiens, c'est prêt. Bon, on m'en verra plus tard pour relire Marx. À table.
Evelyn, une super chronique. Merci Cesse, tu m'as donné trop faim. Par contre, il faut trouver quelqu'un pour la vaisselle, parce que moi j'aime pas ça.
Il y en a qui ont des lave-vaisselles, mais il faut l'équipement et la place et,
c'est pas fou.
Et l'argent, parce que les charges.
Ouais, puis il n'y a pas tout qui passe dans le lave-vaisselle. Hein.
C'est bien vrai.
Merci Cesse.
6h avant minuit. 6h avant minuit.
C'est l'heure de la chronique de Cesse. Bienvenue dans La Sauce, la chronique culinaire aussi gourmande que consciente. Ça va Cesse ?
Ça va. L'an dernier, je vous avais proposé dans cette chronique des stratégies pour cuisiner en été avec tout un tas de recettes ou de techniques qui vont limiter la production de chaleur lors de la préparation culinaire. Parce que bon, c'est super les petits plats mijotés, mais si c'est pour les assaisonner avec sa sueur, merci mais non merci.
J'approuve.
J'ignore comment vos apparts sont isolés chez vous, ou si vous avez un traitement anxiolytique qui vous rend particulièrement sensible et fragile quand le soleil nous darde de ses rayons. Mais moi, la semaine de la vague de chaleur, j'en menais vraiment pas large. L'idée même d'utiliser une bouilloire ou une casserole me mettait mal. Pour vous dire la vérité, j'étais à deux doigts de faire un tableau comparatif sur le ratio bénéfice-inconvénient entre mourir de faim ou mourir de chaleur.
Sacrée semaine.
Dur, dur. Alors imaginez deux secondes le dilemme qui se pose pour les personnes handicapées qui, déjà quand l'air est frais, attendent que la MDPH daigne répondre à leurs demandes d'aménagement pour rendre leurs conditions de vie viables et qui, maintenant que les températures montent, ont droit à une super loi pour mourir dignement dans un délai record. Donc bon, je me suis dit, cesse, reprends-toi, on va plutôt voir comment manger dignement. Parce que pour faire la lutte, c'est cool d'avoir un peu de nutriments et de carburant. J'ai donc fait du taboulé. Et c'est ainsi que je m'en vais vous expliquer en quoi il sera votre meilleur allié pour l'été.
Dis-nous tout.
Déjà, la semoule n'a besoin que d'eau pour s'hydrater, gonfler et devenir toute fluffy et douce sous la dent. La chaleur, ça sert que d'accélérateur. Mais si vous lui laissez le temps, l'eau froide suffira amplement. Premier bon point. En plus, si vous coupez en dés votre concombre et vos tomates, avec un petit coup de jus de citron, zeste avec, que vous ajoutez le tout dans un saladier qui ira dormir au frigo avant que vienne le temps de la dégustation, la semoule va se gorger du jus de votre garniture et n'en sera que plus gourmande. Même logique si vous ajoutez une ciselade de vos herbes préférées. Menthe, basilic, persil, ciboulette, à vous de faire votre petite sélection. Et pour finir, ma petite astuce personnelle, gardez de la tomate fraîche à ajouter au dernier moment. En effet, le froid va tuer un petit peu le goût de nos belles tomates, donc en ajouter à la dernière minute va compenser cette perte et rehausser le goût tomaté. Et pour ne pas se lasser, le taboulé peut se décliner à l'infini. Déjà, on peut s'amuser à changer les légumes. Melon de toutes les couleurs. Genre, j'ai découvert le melon blanc l'autre jour, mais c'est une dinguerie ce truc. Et pourquoi pas un petit fenouil par ici, une orange par là. J'ai même eu une pote qui, pas plus tard qu'aujourd'hui, m'a envoyé un taboulé aux pêches et aux fraises. Après, on peut s'amuser avec les condiments. Une pluie d'olive verte ou noire, une feta émiettée, une poignée de graines de tournesol, laissez libre cours à vos envies. Et enfin, on peut apporter un peu de protéines pour un plat un peu plus consistant, comme des pois chiches en conserve qu'on aura juste à rincer, ou un tofu fumé à tailler en dés. Alors c'est pas juste pour faire de la propagande végé, hein, c'est juste que je garde en tête mon objectif zéro cuisson pour un savoureux gueuleton.
Ça a plus rien vraiment d'un taboulé ton affaire là, Cesse, j'ai l'impression.
Peut-être, mais tu sais ce qu'on dit, Héloïse. La fin, FIM, justifie les moyens.
Oh, elle est belle, celle-là. Merci beaucoup, Cesse.
6h avant minuit. 6h avant minuit.
Le 11 juin dernier, Cesse proposait une chronique dans la sauce avec un concept de taboulé sans cuisson pour survivre à la première vague de chaleur de l'été. Alors, pour la seconde vague, on peut s'attendre à une chronique un poil plus salée.
C'est bon ? Tout le monde a mangé du taboulé zéro cuisson pour reprendre des forces ? C'est super ! J'entendais ce matin même le journal RFI interviewer des gens sur leur stratégie, attention, ouvrez les guillemets, non pas de citation, mais de scepticisme, leur stratégie donc d'adaptation. Machin parlait d'installer l'air conditionné dans sa maison, Machine racontait qu'il y avait 10 degrés en moins sur le bord de mer, et donc c'était l'occasion d'une petite retraite. En parlant de retraite, la réforme de celle-ci s'est vue accompagnée de la suppression de 4 des facteurs de pénibilité au travail.
Si les températures extrêmes y figurent toujours, imposant quelques mesures d'adaptation des postes de travail par l'employeur, les syndicats dénoncent l'absence de mesures urgentes. Dans son communiqué du 21 juin 2026, la CGT pointe du doigt les manquements suivants. Aucune température maximale de travail définie. Aucun renforcement du droit de retrait. Aucune interdiction explicite de faire travailler dans des locaux à 40 degrés l'été. Pourtant, il existe des recommandations officielles en la matière. L'Institut national des risques professionnels juge dangereux un travail physique au-delà de 28 degrés et sédentaire au-delà de 30. Fin de la parenthèse droit du travail, revenons-en à nos casseroles. Pourquoi je suis aussi sceptique sur le terme « adaptation » ? Vous vous rappelez de la séquence de Serge Zaka à France Inter ? Mais si, l'agroclimatologue, celui de l'Hérault, le mec avec un chapeau à plumes, là ! En mars, il nous alertait déjà.
Il faut être clair, après 2050, quand vous regardez le rapport France plus 4 degrés, on atteindra entre 45 et 50 degrés dans plusieurs régions françaises, ce qui veut dire que ce sera de la mortalité des arbres qu'on aura. C'est pas juste de l'adaptation, c'est pas possible.
Il y a des limites infranchissables pour les végétaux.
Des limites biologiques, et c'est ce que je veux dire, c'est que le changement climatique, souvent on dit aux agriculteurs, allez, vous allez vous adapter, vous allez mettre des arbres, travailler sur un sol plus vivant, parfois mettre de l'irrigation, parfois mettre des réserves en eau pour l'irrigation, mais... Il y a un moment, si vous irriguez du maïs et qu'il fait 47 degrés, le maïs, il est mort. Il faut comprendre que la meilleure façon d'adapter notre agriculture après 2050 dans le sud et après 2060-70 dans le nord, c'est de limiter les gaz à effet de serre pour éviter ces températures. Ce n'est pas possible de trouver une race de vaches laitières ou alors un arbre qui s'adapte à 50 degrés, même une seule journée, hein. Ça peut tuer un végétal.
L'autre vidéo qui tourne sur les réseaux sociaux alors que la France passe la barre des 40 degrés, c'est la vidéo de Marie Chureau, activiste écologique, anciennement membre du mouvement Youth for Climate France. Un petit extrait de cette vidéo qui a recueilli 137 000 likes en 24 heures.
Moi ça me rend ouf, parce que pendant que Macron il nous recommande de boire de l'eau, je rappelle quand même qu'il a donné la Légion d'honneur au PDG de Total, et que le gouvernement vient de couper 163 millions d'euros sur le fonds vert, qui est le seul budget qui sert à adapter les écoles, les hôpitaux, les villes à la chaleur. Ah, et d'ailleurs ce budget qui est dédié à la transition écologique, il a déjà été coupé de 300 millions cet automne dans le budget de l'État, grâce aux socialistes qui ont voté. C'est pas des gestes individuels à base de « on va mettre des clims partout » qui va tout changer. Non, il faut des politiques structurantes qui s'attaquent aux causes concrètes du réchauffement climatique, donc à savoir les multinationales fossiles par exemple, et des politiques qui réadaptent intégralement la société pour nous protéger.
Et tant qu'on est sur Instagram, le parti politique European Greens publiait quelques recommandations sur son compte pour faire face à cette seconde vague de chaleur. Extrait choisi. Évite l'alcool et l'exposition directe au soleil. Tout comme les politiciens d'extrême droite évitent de lutter contre la crise climatique. Ou encore, ouvre la fenêtre avant d'aller au lit. Et demande à tes élus de rénover l'isolation des bâtiments. Mais bon, puisqu'une pétition sur la plateforme de l'Assemblée nationale qui rassemble pas moins de 2 millions de signatures, ça ne suffit pas pour empêcher le Sénat de recycler la loi du plomb en intégrant un amendement pour réintroduire les néonicotinoïdes au texte de la loi Urgence Agricole, bah peut-être que demander c'est pas assez. Alors bien sûr, je vous encourage à vous rendre sur les plateformes telles que checktonpolitique.org pour suivre le calendrier législatif et continuer à interpeller nos chers élus de la République. Mais perso, je pense qu'il est l'heure de ressortir les casseroles si on veut pas finir comme Hansel et Gretel.
Plus 1 degré, ça chauffe, ça chauffe. Plus 2 degrés, ça chauffe, ça chauffe. Plus 3 degrés, ça chauffe, ça chauffe. Pour chaque degré, on lutte et ça va payer.
Et oui, ça chauffe, ça chauffe. Merci, Cesse, pour tes recommandations. Et puis nous, on va pas tarder à se rentrer chez nous aussi pour s'envoyer des gros Mr Freeze dans la face.
Si, la la. La radio sauvage.
Quelle heure est-il ?
6h exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6h.
Le magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue.
6h. Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs d'Ito !
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllabe, la radio sauvage.